Vous écoutez On lit pour vous.
La rentrée littéraire 2024, essai, sujet chaud. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. On reconnaît la plume franche et fine de Denis Ellis Béchard grâce à ses anecdotes personnelles, toujours éclairantes, jamais intrusive, et le regard juste et sans compromis qu'il jette sur lui-même autant que sur le monde qui l'entoure. Dans « La blanchité aveuglante » chez Éco-Société, il s'interroge sur les traces qu'a laissées son éducation sur sa compréhension du racisme. Même s'il s'est reconstruit un esprit humaniste, l'auteur et reporter n'exclut pas qu'il perpétue certains schèmes malgré lui. Saisissant que la société en est au même point, malgré les grands discours, il nous invite à considérer cette prémisse, alimentée par son expérience, sur les travers et les richesses de l'Amérique. C'est sous forme d'une lettre à sa fille que David Shariandi livre ses pensées sur le racisme dans cette réédition « D'il est temps que je te dise » chez Héliotrope. Alors que l'actualité est chaque jour plus sombre, l'auteur se sent le devoir de rassurer son enfant qui célèbre alors son 13e anniversaire. Par le truchement de leur trajectoire familiale, il relate l'immigration, la lutte pour s'intégrer, le racisme ordinaire, sans négliger les autres formes de ségrégation existant autour d'eux. Ces mots s'avèrent dénués de hargne et de commisération et visent davantage à mettre en lumière la superbe et la force de ceux et celles qui ont tracé le chemin avant eux. Mona Greenbaum, l'autrice de « Famille LGBT, le guide », a insufflé à Marianne Schbatt une nouvelle mouture. Famille queer, récits et célébrations chez Remue Ménage, à laquelle elle a également participé. L'ouvrage retrace les récentes améliorations dans le système juridique et salue une certaine acceptabilité sociale. Il n'en demeure pas moins que cet avancement durement acquis est fragilisé par des voix discordantes et souvent mal informées. La communauté est précieuse, l'humanisation importante. Voilà pourquoi les autrices donnent la parole à une trentaine de familles qui attestent de leur réalité, de leurs petites et grandes victoires, ainsi que de leurs difficultés. Des familles innovantes, fortes de leur unicité et des valeurs qui les motivent. C'était la rentrée littéraire 2024, essai, sujet chaud. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Atelier 10 et nouveaux projets. Une autre forme d'actualité. Un texte de Philippe Fortin paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Fondateur de P45 en 2000, un magazine à l'ironie mordante, irrévérencieux à souhait et qui compta entre autres collaborateurs des gens de la trempe de Judith Lucier, de Mathieu Arsenault et de Nelly Arcan, Nicolas Langelier faisait paraître en 2010 le roman « Réussir son hypermodernité et sauver le reste de sa vie en 25 étapes faciles » Boréal. Dans la foulée de cette sortie, la journaliste Chantal Guy publiait un entretien avec lui où il fut notamment question du désir de l'auteur de lancer un nouveau magazine qui se donnerait le luxe de la profondeur et de la réflexion. Quelques jours plus tard, un certain Jocelyn McClure, professeur agrégé à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, communique avec Langelier pour lui manifester son intérêt par rapport à cette idée de nouveau magazine. Et c'est ainsi que bientôt une maison d'édition est fondée par les deux hommes. Celle-ci sera nommée Atelier 10, en référence à la décennie qui s'amorce, de même qu'à cette volonté qu'ont les fondateurs de promouvoir un certain artisanat. Contre la spécialisation grandissante dans le domaine du savoir et l'inévitable fragmentation du public, ceux-ci se proposent donc de mettre de l'avant des textes généralistes, accessibles et courts, qui se pencheront sur les enjeux sociétaux contemporains sans être trop pointus. En parallèle de la maison, l'idée d'un nouveau magazine où se déploierait une autre forme d'actualité finit par donner naissance à la revue Nouveau Projet, dont le premier numéro paraît en mars 2012, quelques mois avant le premier livre de la collection Documents, soit La Juste Part de Patrick Turmel et David Robichaud. Pendant 2 ans, Atelier 10 fait ainsi paraître annuellement 2 numéros de Nouveaux Projets et 2 titres de la collection Documents. En 2014 s'ajoute la collection Pièces, dont l'émergence est le fruit de l'amour sincère que porte Langelier au théâtre contemporain. Constatant le peu d'espace éditorial réservé à ce genre, il fait le pari risqué de réussir à publier du théâtre tout en ne coulant ni la maison d'édition ni la revue. En 2017, le succès phénoménal de la pièce « J'aime Hydro » de Christine Beaulieu viendra confirmer le bien fondé de cette volonté de mettre le théâtre à l'honneur. L'année 2018 voit la publication de « Faire campagne », premier titre de la collection « Journalisme », une collaboration avec les éditions de la Pastèque consacrée au reportage, à l'enquête et au journalisme dessiné. La collection « Transmission », quant à elle, destinée à faire le portrait d'hommes et de femmes qui ont contribué à construire le Québec d'aujourd'hui, voire celui de demain, continue d'élargir le champ d'action d'Atelier 10. Plus récemment, la volonté de l'éditeur de voir des textes drôles devenir de véritables objets livresques a donné lieu à l'arrivée de la collection « Humour », qui se promet de promouvoir la richesse du propos, l'acuité d'observation et la lucidité de certains de nos humoristes, le tout en adéquation avec l'esprit de la maison et toujours dans l'optique de favoriser la diffusion d'idées et de réflexions pertinentes en passant par des chemins qui ne soient ni trop sérieux ni trop simplistes. Par-delà la revue et les livres, Atelier 10 cumule également de nombreux autres projets en cours ou à venir. Le temps debout est l'un d'entre eux. Au cœur de celui-ci réside la conviction de la nécessité pour l'humain d'accéder à une certaine forme de transcendance. En osant s'aventurer sur le terrain de la spiritualité, sans que ce mot renvoie à l'usage de cristaux ou aveuglement dogmatique trop souvent associé à ce domaine, la maison souhaite aménager un nouvel espace de réflexion pour une vie plus consciente et satisfaisante, notamment par le biais d'un guide à l'intention des parents, mais aussi par d'éventuelles formations, des événements et des rencontres. Dans les cartons de l'éditeur se trouve ainsi l'idée d'offrir une éducation esthétique, par exemple. La maison s'est aussi commise dans l'univers des balados grâce à « Nouveaux projets audio », avec la production d'un grand nombre d'épisodes issus des titres des collections Documents et Pièces, de même que des numéros de la revue. Toujours en marge de l'édition à proprement parler, la maison met également à la disposition du public des services rédactionnels par le truchement du projet « Histoire du monde », où l'expertise de l'équipe est mise à profit pour aider ceux qui le désirent à raconter leur histoire ou celle d'un de leurs proches. Le studio A10 en est le pendant destiné aux professionnels et aux entreprises. La boutique Atelier 10, située sur la rue Beaubien à Montréal, a accueilli divers événements au fil du temps, notamment deux éditions du Nouveau Cabaret et plusieurs conférences, rencontres et causeries en lien avec les auteurs de la maison ou leurs collaborateurs. Cet aspect d'Atelier 10 est particulièrement prisé par l'Angelier, qui voit dans cet espace hybride la concrétisation de la volonté à la base de l'entreprise, à savoir une forme décontractée de partage des idées. Enfin, si la maison est sise à Montréal, cela ne l'empêche pas de s'inscrire en faux contre le montréalocentrisme qui afflige trop souvent la vie culturelle québécoise. En entrevue au téléphone, l'éditeur insiste sur le grand intérêt que la maison entretient envers les régions, pour ce qui s'y passe et ce qui s'y vit, considérant que de formidables initiatives émergent régulièrement d'un peu partout au Québec. En ce qui a trait à la suite des choses, l'Angelier évoque l'atteinte d'une certaine maturité pour Atelier 10, qui devrait selon lui passer les prochaines années à consolider ses multiples projets plutôt que de continuer à en développer de nouveaux. Il souhaite également faire prospérer le magazine, un véhicule qu'il aime particulièrement conduire, d'autant plus que Nouveau Projet a déjà remporté de nombreux prix au fil des ans. En définitive, Nicolas L'Angelier semble bien en selle. Les projets ne manquent pas, les idées non plus et l'enthousiasme encore moins. C'était Atelier 10 et Nouveaux Projets, une autre forme d'actualité. Un texte de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Troisième bras, c'est toujours pratique, un texte d'Isabelle Ducharme, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad. Je suis loin d'être une geek, mais je me débrouille un peu avec la technologie. J'ai une relation amour-haine, comme beaucoup d'autres personnes, je crois, avec la technologie. Quand ça fonctionne, c'est magnifique. Mais quand ça cesse de fonctionner, ça peut parfois être long avant de trouver la solution. Ceci étant dit, après avoir appris la thématique du magazine pour ce mois-ci, j'ai réfléchi un peu et j'ai réalisé que finalement, la technologie est quand même assez présente dans ma vie. Sans la technologie, je n'aurai pas d'ouvre-porte automatique et de stores qui peuvent être programmés pour ouvrir et fermer à l'heure que je désire à la maison. Je n'aurai pas eu non plus d'ordinateur pour me permettre de poursuivre mes études jusqu'à la maîtrise. Mon histoire avec Kinova. Un jour, la compagnie Kinova s'est présentée sur mon chemin avec sa technologie pensée pour l'humain et sa petite équipe de travail chaleureuse. Bien installée à mon kiosque dans un salon de l'accessibilité, une représentante de la compagnie Kinova est venue me chercher pour que je me rende à son kiosque pour voir leur produit unique à l'époque, le bras robotisé Jaco. Je trouvais la technologie impressionnante, mais j'avais un doute sur son utilité pour moi. Je suis tétraplégique, mais j'ai quand même l'usage partiel de mes bras, sans mouvement dans les doigts. C'est ici qu'a débuté mon histoire de collaboration avec Kinova et éventuellement l'utilisation de la technologie qu'elle a développée.
je crois au produit. Je comprends son utilité et j'en fais la promotion auprès de personnes avec une paralysie complète. J'assiste maintenant la compagnie dans différents moyens de communication et promotion qui pourraient interpeller les personnes avec une déficience motrice et les différentes entités du domaine de la santé qui pourraient éventuellement décider d'en faire un produit offert par les mêmes programmes que l'obtention d'un fauteuil roulant. On me propose donc initialement de l'essayer pour une période d'un mois et de voir si je pense que le bras robotisé Jaco m'est utile. Après quelques jours d'utilisation, j'étais convaincue. Ça me prend un bras robotisé Jaco dans ma vie au quotidien. Alors je dis oui. Il peut aider quelqu'un qui n'a aucun mouvement des membres supérieurs à manger, taper à l'ordinateur et à faire d'autres tâches qui se font sur un espace comme une table, mais que j'arrive à faire seul grâce à mes mouvements partiels des bras et les petites adaptations comme un bracelet universel. La partie que je n'avais pas encore comprise avant de l'avoir attaché à mon fauteuil roulant était tout le quotidien. Le premier matin où j'ai pu prendre un café sans paille. Je vous avoue que la révélation qui a été mon plus grand bonheur par rapport au bras robotisé Jaco a été le premier matin où j'ai pu prendre un café sans paille et sans attendre que quelqu'un me donne des gorgées. J'ai eu mon accident à l'aube de mes 22 ans et, enfin, à 47 ans, j'ai savouré mon café matinal à mon rythme. Quel bonheur! Bien sûr, il y a de multiples autres raisons encore plus pertinentes et percutantes de se procurer un bras robotisé lorsqu'on a une déficience motrice qui affecte les membres supérieurs. Avant d'avoir le bras robotisé Jaco, si j'échappais mon téléphone, les manettes de contrôle à distance, mon pointeur pour travailler à l'ordinateur, par terre le matin, ils y restaient pour le reste de la journée ou jusqu'à ce qu'un visiteur passe me dire bonjour. Maintenant, je peux ramasser des objets au sol grâce à Jaco. Si j'avais une fringale en après-midi, le désir d'aller chercher quelque chose dans l'armoire ou le réfrigérateur, ça m'était impossible. Maintenant, je peux ouvrir la porte et prendre des objets sur les tablettes grâce à Jaco. Si une personne avait la gentillesse d'appuyer sur le bouton d'ascenseur pour que je puisse y entrer et que je me retrouvais dans l'ascenseur devant des boutons d'étage trop haut, je restais prise jusqu'à ce qu'une personne entre, ce qui parfois pouvait être long selon l'heure de la journée. Maintenant, je peux appuyer sur le bouton à l'extérieur et à l'intérieur de l'ascenseur grâce à Jaco. Si j'étais à l'extérieur de la maison et qu'il pleuvait ou qu'il faisait un soleil intense, le parapluie devait être tenu par la personne qui était avec moi, si j'étais accompagnée. Maintenant, je peux tenir en place un parapluie pour me protéger des intempéries grâce à Jaco. En fait, avec l'accompagnement d'un technicien de la compagnie Kinova, il y a une solution à peu près tout ce qu'on peut faire et qui nous est présentement impossible en fonction de nos limitations motrices des membres supérieurs. Le bras robotisé Jaco de Kinova est devenu tellement important dans ma vie et dans mon autonomie que maintenant, pour moi, c'est mon ami Adam. C'était un troisième bras, c'est toujours pratique, un texte d'Isabelle Ducharme paru dans le numéro 162 printemps 2024 du magazine Paraquad. Thank you.
Avoir 20 ans à Westmount, une chronique de Robert Lévesque, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Avenue Belmont, rue de la Montagne, rue McGregor, Stanley, Peel, Sherbrooke, Selkirk, Victoria, la Sainte-Cath, le boulevard Westmount. Ce sont dans ces artères de l'Ouest que les personnages du jeune romancier Leonard Cohen circulaient, rêvant, allant leur vie. Comme ceux de Mordecai Richler arpentaient la rue Saint-Urbain, la rue Fairmount, la rue Laurier dans le Mile End, et ceux de Tremblay, la rue Fabre, l'avenue du Mont-Royal, le parc La Fontaine dans le Plateau, alors que ceux de Basile erraient dans la rue du Parc, la rue Milton, l'avenue des Pins, la rue Elmer dans le ghetto McGill. Un morceau manquant de la littérature montréalaise nous est enfin offert avec un roman pas trop fameux, mais des nouvelles formidables de Leonard Cohen, le fabuleux et nébuleux poète et chanteur du Montréal de la dérive, des nuits et des danses jusqu'à la fin du monde. Cohen, Richler, Tremblay, Basile, les romanciers emblématiques de ce Montréal de la seconde moitié du XXe siècle, auxquels, avec l'exception sublime de Ducharme, de L'hiver de force, il faut ajouter Gilbert Larocque, côté banlieue, et Christian Mistral, versant violet, ont fait de la vieille ville où Néligan est mort un territoire romanesque sillonné de personnages en quête de bonheur et mis en situation de débrouille et de malheur. Un ballet de lépreux, que les éditions du Seuil publient, damant le pion aux éditeurs québécois et canadiens qui tous devraient avoir honte, est un livre rare, équivalent à la découverte d'une grotte, qui rassemble les tout premiers textes de Cohen qu'il écrivit avant de devenir l'immense artiste qu'il fut, qu'il demeure devant l'Éternel, à hauteur de Dylan. Il était le seul Québécois avec Marie-Claire Play à mériter le Nobel, et entré dans l'histoire par la porte des plus grands poètes, les âmes sensibles, les amoureux esselés. Et toute ma reconnaissance va à Bernard Comant, l'écrivain remarquable qui dirige la collection Fiction et compagnie, qui nous permet de lire ce que Cohen écrivait quand il vivait chez sa mère avenue Belmont, qu'il noircissait dans sa chambre des rames de papier, qu'il reluquait les filles et qu'il avait la poésie ancrée dans le cœur. Il avait 20 ans et tous ses sens étaient en éveil, hétérosexuel et homosexuel. Il vivotait à Westmount, son père mourait tôt, sa mère se désespérait. À la maison, il y avait des domestiques, un jardin, de la vaisselle étincelante. En ville, il avait des copains ambigus, mais tout cela ne lui suffisait pas. Il préférait les longueurs de la nuit, les filles, les flirts, les fuites, les feintes. Il ne craignait pas les failles, mais les espérait. Il ne savait pas que, par sa voix et sa mélancolie, il allait conquérir le monde. Alors ce roman, ce ballet de lépreux. Certes, l'être humain est un lépreux. Certes, il danse plus ou moins. Mais le primo-romancier de 22 ans, en 1956, peine à même s'approcher de ceux qui ont su mener le grand bal des galeux. Sa chorégraphie est lourdingue. Son pas de deux bancal. On piétine entre le mystique et le sordide. Ni Dieu ni diable. Bref, Cohen, qui deviendra ce grand poète, ce formidable chanteur, qui aura une voix unique, n'a alors que du tempérament mal endigué, trop éparpillé, très inégal, entre swing et écart. On comprend les nombreux refus d'éditer qu'il rencontra avec ce roman. Sans maîtrise, le tempérament boitait, s'égarait. Cette histoire d'un quidam flâneur qui se reconnaît dans un grand-père malcommode qui lui tombe dessus, arrivé de New York, arrimé à lui par une erreur d'aiguillage, qui va lui sembler être un modèle sanguin et qui savoura n'avoir aucun lien filial avec lui, était assez inédite et potentiellement forte. Mais le ballet manque de tempo et de grâce. Il finit dans la fange du fiasco. J'ai mal à écrire cela d'un homme que j'admire tant, le grand Cohen, l'immense Cohen. Mais voilà un des méfaits de la gloire qui fait que, s'agissant d'un célébrissime artiste qui aurait pu, comme Dylan, mériter le prix Nobel, certains s'acharnent à piller les tiroirs du mort. Cependant, et ouf, ce roman court est suivi de 16 nouvelles parmi lesquelles on trouve au moins 7 ou 8 merveilles. Avoir 20 ans à Westmount, voilà le titre que j'aurais donné à l'ouvrage en omettant d'y jouer en vitrine le roman raté. Les nouvelles auraient suffi à l'affaire. Elles sont nettement autobiographiques avec toutes les libertés de qui écrit sur ses souvenirs, dans le mentir vrai de la meilleure littérature. Là, Leonard Cohen aurait eu de quoi être fier si elles avaient été publiées de son vivant, car certaines d'entre elles, les meilleures, se comparent à celles d'un Raymond Carver ou d'une Carson McCullers. Nous voilà dans les rues de l'Ouest montréalais, Metcalf, McTavish. Nous voilà parmi une jeunesse juive aisée et décontractée. La mère hyper inquiète, les copains hyper branchés, les filles hyper bizarres, les bars hyper bruyants, les rencarts multiples, les vodka coca et les petits matins blêmes. Dans Saint-Jig, un coloc organise un dépucelage pour son copain, orchestre un rendez-vous avec une fille qu'il a payée, et, in fine, celle-ci le rembourse parce qu'ils n'ont pas couché, mais que le copain lui a demandé si elle voulait se fiancer. Dans « Une semaine, ça fait long », un gars et une fille passent des jours au lit à baiser, à flemmarder, à regarder par la fenêtre un type qui chasse des chats, et un matin, en douce, le gars s'esquive pendant que la fille dort. Dans « Signaux », deux copains circulent en voiture dans Westmount à la recherche d'une maison où réside une fille avec qui l'un des deux a déjà baisé. Celui-ci veut revoir la fenêtre d'où cette fille se montrait nue quand, selon un horaire nocturne fixé, il allait devant la dite maison, qu'elle éteignait la lumière et que, 2 minutes plus tard, elle sortait pour venir le rejoindre. Ce soir-là, il se demande si le manège, même si elle est maintenant mariée, pourrait se rejouer. Dans « Cérémonie », la plus autobiographique, un garçon et sa sœur aînée, Cohen en avait une, regardent le cadavre de leur père gisant dans sa tombe amenée au milieu du salon le jour de l'anniversaire de celle-ci. « Ne pleure pas, lui ai-je dit. Je crois que ce fut là mon grand moment. » On est loin du déjanté des perdants magnifiques. Dans le délicat, plutôt. C'était « Avoir 20 ans à Westmount », une chronique de Robert Lévesque, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.